Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Qui aurait imaginé il y a seulement quelques semaines voir cohabiter dans le même gouvernement des personnalités politiques a priori aussi différentes que François Bayrou, Bruno Le Maire, Gérard Collomb, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Marielle de Sarnez ou encore Jean-Yves Le Drian. Des socialistes, des républicains, des centristes, côte à côte et non plus face à face, sacré bouleversement. En véritable entrepreneur de la recomposition politique, Emmanuel Macron poursuit son travail de remise en cause du système partisan. D'aucuns y verront une approche façon bulldozer, mais de bulldozer, il n'en est sans doute plus besoin aujourd'hui pour mener une telle opération. Les partis politiques traditionnels sont à ce point fragilisés qu'une pichenette semble suffire pour les faire vaciller. Le PS est pris en tenaille entre la France insoumise et la République en marche. Les Républicains ont bien du mal à résister à l'appel du grand large élyséen, signe d'un décalage de plus en plus grand entre leur positionnement idéologique d'origine et l'actualité des clivages partisans. Mais ils ont pour eux ce que n'ont pas, en tout cas pas encore, les mouvements politiques émergents, à savoir des organisations structurées et professionnelles. Alors les vieux partis sont-ils vraiment finis? Eh bien cette question, nous allons la poser à trois invités. Alexandra Goujon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne, où vous enseignez notamment l'étude des partis politiques, ce qui vous a conduit d'ailleurs à diriger un ouvrage publié l'an dernier aux éditions de l'Université de Bruxelles, Les partis politiques, atelier de la démocratie. Vous travaillez actuellement sur les initiatives citoyennes. Nous aurons sans doute l'occasion d'en rediscuter. Pour débattre avec vous, Dominique Régnier, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Vous êtes professeur à Sciences Po. Vous êtes engagé il y a quelques mois de cela en politique, puisque vous étiez tête de liste pour les régionales, pour les Républicains, sans toutefois être membre de ce parti politique. C'était dans le Sud-Ouest, je me souviens plus le nom de la région.
Occitanie,
voilà. Et puis au téléphone, notre troisième invité, il est à Grenoble, c'est Erwan Lecoeur. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et sociologue, vous dirigez la communication de la ville de Grenoble et sans doute vous en souvenez-vous, mais vous aviez coordonné un numéro de la revue Esprit en 2013 qui nous a beaucoup servi dans cette émission chaque saison puisqu'il était intitulé « À quoi servent les partis politiques ?» et dans l'introduction, vous disiez notamment ceci, Erwan Lecoeur, « Pour les partis politiques, la cote d'alerte est dépassée ». Ça, c'était le constat que vous faisiez en 2013. Est-ce que ce constat est d'autant plus, affirmé aujourd'hui, en 2017, de votre côté, Erwan Lecoeur?
Oui, il serait étrange de ma part de dire l'inverse. Non seulement le constat est affirmé, il semble même qu'on soit passé maintenant dans une autre dimension, une autre époque, finalement, et que le phénomène Macron, après le phénomène Le Pen, et éventuellement un peu le phénomène Mélenchon également, on conduit à, je dirais, faire émerger quelque chose qui était déjà sous-jacent depuis maintenant pas mal d'années et que nous avions en effet dans ce numéro que vous avez la gentillesse à chaque fois de bien vouloir citer, nous avions essayé de voir un petit peu où en étaient ces partis politiques, les deux principaux notamment du champ politique en France. On voit bien aujourd'hui où ils en sont et qu'ils sont clairement, nettement dépassés, voire amoindris.
On peut dire que Alexandra Goujon et Dominique Régnier, que ces deux partis, le Parti Socialiste d'une part, les Républicains d'autre part, n'ont jamais été aussi affaiblis. Alexandra Goujon.
Oui, on peut dire qu'ils n'ont jamais été aussi affaiblis. Et en même temps, c'est un affaiblissement qui n'est pas similaire hein, et qui est aussi conjoncturel. C'est-à-dire que pour le Parti Socialiste, on sort quand même d'un quinquennat socialiste. Et donc, c'est un affaiblissement qui est lié au fait que le candidat en fait, qui a été choisi est un candidat qui en fait, représente, et c'est ce qu'on savait déjà avant, mais qui a été confirmé, une minorité au sein du Parti Socialiste, qui a subi aussi l'impopularité du quinquennat de François Hollande. Côté républicain, c'est quand même aussi un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on avait prévu effectivement l'alternance et que là, on a un parti qui est affaibli principalement par les affaires du candidat qui a été choisi aux primaires.
Affaiblissement conjoncturel, ça veut dire que de votre point de vue, émettre l'hypothèse d'une disparition pure et simple de ces deux partis, ça serait quelque chose d'un petit peu trop osé aujourd'hui, en tout cas prématuré.
Oui, je pense qu'il faut, il faut réfléchir à la fois sur la conjoncture, mais aussi sur la longue durée, voir que les partis politiques en France, quand on dit vieux partis, finalement, on fait partie, en France, en tous les cas, les vieux partis ne sont pas si vieux que cela. Et que, je pense que sur la longue durée, il faut remarquer que, on se concentre beaucoup en France sur l'élection présidentielle. Et, ces partis politiques servent quand même de structure importante pour sélectionner les candidats à toutes les élections, y compris au niveau local. Donc moi, j'attends de voir, par exemple, les législatives, mais surtout ce que vont donner les élections municipales, les prochaines.
Ne les enterrons pas trop vite, Dominique Ragnier.
Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est très paradoxal parce qu'il y a indiscutablement une crise historique pour le Parti Socialiste et aussi pour les Républicains qui se sentirent un peu moins mal parce que 20, c'est plus que 6, mais sur le fond, c'est quand même très compliqué. Mais Alexandra Goujon le disait à l'instant, il reste les fonctions qu'ils remplissent, dont j'imagine on parlera et qui ne vieillissent pas, qui restent aujourd'hui nécessaires. Il reste effectivement ce réseau d'élus extrêmement important par lequel ils trament le territoire. Les conseillers municipaux, les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux appartiennent à ces deux partis moribonds, aujourd'hui presque exclusivement, de manière hégémonique. Ils ont aussi cartélisé la vie politique. Ça, c'est quelque chose de tout à fait fascinant.
Qu'est-ce que ça veut dire, cartéliser la vie politique?
Je veux dire par là, c'est pas une notion polémique, hein, mais je veux dire par là que les règles qui organisent le fonctionnement de la vie politique ont été inventées par les représentants qui émanent de ces partis, justement, qui sont parlementaires et qui émanent de ces partis. Le financement, par exemple, de la vie politique est entièrement entre les mains des partis. On n'a pas aujourd'hui la possibilité, sauf de façon marginale, et ce n'est pas le sujet, de financer par la voie privée, individuelle un peu, la vie des partis. C'est de l'argent public principalement. Et ça a été organisé au bénéfice des partis qui sont aujourd'hui moribonds, mais qui reçoivent toujours l'essentiel de la manne publique. C'est d'ailleurs un des enjeux de l'inscription législative sous l'étiquette d'un parti ou d'un autre, parce que ça va avoir bien sûr des effets considérables sur le financement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'argent public. Par exemple, ce que fait Emmanuel Macron, il est rentré avec des dons qu'il est allé chercher, ça a fait l'objet de discussions et d'études. Il n'avait pas le choix de toute façon, parce qu'il n'y a rien du tout pour les entrants. Vous êtes installé, vous avez l'argent public, c'est des sommes qui sont toujours importantes, même quand on est un tout petit parti, c'est toujours des sommes très importantes, et ça vous permet d'organiser la vie de votre association.
Erwan Lecœur, la façon dont est organisée la vie politique en France aujourd'hui et depuis des décennies permet peut-être de maintenir à flot ces partis politiques qui, sans cela, auraient peut-être aujourd'hui disparu?
Oui, je pense qu'en effet, il y a quelque chose de l'ordre d'une organisation et d'un système de scrutin qui fait la part belle à certains partis. On le sait, on le sent depuis des décennies maintenant. L'émergence du Front National s'est aussi nourrie de cette capacité qu'il avait à gonfler les scores sans jamais que ses électeurs prennent de risques, puisqu'ils ne prenaient jamais le pouvoir nulle part, quasiment, parce que le système majoritaire, qui est un peu une chose étonnante hein, dans le système électoral mondial, notamment par rapport à nos voisins européens, le système majoritaire veut que quand vous avez 50 plus une voix, vous avez gagné, et vous avez tout gagné. Et au municipal, puisqu'il en a été question, c'est encore pire. Même si vous n'avez pas 50%, même si vous avez une majorité relative, vous avez quand même gagné. Et vous avez en plus une prime, comme au régional, etc. Ce qui a été dit est à la fois juste, les partis gardent une structure de réseau d'élus. Ça, c'est vrai. C'est même ce qui fait que le Parti Socialiste et l'ex-UMP devenu LR sont encore debout. C'est qu'ils ont une structure qui permet de faire élire tout un tas de gens et de reverser de l'argent à ces élus et de faire reverser par l'État de l'argent pour cela. Mais au niveau municipal, c'est de moins en moins vrai, par exemple. Et il y a de plus en plus de maires qui se sont fait élire sans étiquette de parti. Grenoble en est un exemple, mais il y en a d'autres de grandes villes où les élus, et dites-moi clairement si M. Collomb est bel et bien socialiste quand il est réélu à chaque fois, ce n'est pas tout à fait le cas. On voit bien que les gens qui sont aux côtés du nouveau président de la République incarnent d'ailleurs cette génération de gens qui n'ont plus besoin ni des partis, ni même du clivage gauche-droite pour être élus, pour exister dans la politique française. Voilà, ces quatre hommes principaux, ils ont déjà passé le Rubicon de la gauche et de la droite depuis longtemps, et des partis aussi. Donc les partis continuent à exister. J'ai postulé pour ma part que le Parti Socialiste était mort, entre guillemets, à peu près en 2002, après le 21 avril, qu'il a continué à survivre comme un fantôme hantant la vie française, la vie politique, parce qu'il fallait faire élire tout un tas de gens sur les territoires, ce qui a continué à être le cas, avec des dizaines de milliers d'élus. Néanmoins, aujourd'hui, on voit bien que le roi est nu depuis longtemps, que tout cela a implosé et explosé, que les gens à l'intérieur du parti ne sont plus d'accord sur des fondamentaux de ce qui les relie, et puis enfin que les deux choses qui font, et là je laisserai Alexandra Goujon le dire mieux que moi, qui font encore un parti politique, d'abord le choix du candidat, ben, ce n'est plus le parti, c'est les primaires, et le choix du programme, c'est plus le parti, c'est les think tanks. Donc d'une certaine façon, ce qu'a fait M. Macron, c'est qu'il a recréé une start-up politique, il a fait du marketing extrêmement efficace, et il a fait un parti à 200 000 personnes, pendant que les autres partis, eux, descendaient en flèche le nombre de leurs adhérents. Et on voit bien aujourd'hui ce qui se passe dans les urnes. Cette présidentielle, elle est emblématique. On a M. Macron en premier, les abstentionnistes et les Blancs en deuxième, c'est le plus grand parti de France, c'est le numéro 2 des partis de France, c'est aussi et c'est également inédit, et ça pose un certain nombre de questions. Et puis ensuite, on a le Front National. Et enfin, derrière, on a les deux grands partis, entre guillemets, enfin, si l'on exclut la France Insoumise, qui elle-même n'est pas un parti.
Alors, Alexandra Goujon, justement, Alexandra Goujon, les fonctions qui étaient celles des partis politiques aujourd'hui sont moins essentielles, peut-être, qu'elles l'étaient à la vie politique, et parce que la production d'idées se fait ailleurs, parce que la désignation des candidats est aussi en partie externalisée, c'est-à-dire ce ne sont plus seulement les militants qui votent, mais les citoyens qui adhèrent finalement aux principes des primaires, que ce soit à droite ou à gauche, et c'est ce qui explique que certains aient la possibilité aujourd'hui de s'en affranchir pour mener malgré tout une carrière politique.
Oui, je voulais dire deux choses à ce sujet, parce que là encore, on est centré sur l'élection présidentielle. C'est-à-dire que la sélection des candidats se fait par des primaires ouvertes pour le candidat à l'élection présidentielle. Certes, c'est une fonction, on va dire, extrêmement importante. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs analyses aujourd'hui qui montrent que la dépossession du choix du candidat à l'élection par les militants, en fait, fragilise les partis politiques. Parce que finalement, les militants n'ont plus, on va dire, ce privilège de pouvoir choisir le candidat à l'élection présidentielle. Et il y a une sorte de dilution. Mais justement, la sélection des autres candidats, et à voir comment les partis vont évoluer de ce point de vue-là, candidats aux élections régionales, aux élections locales, se fait encore par les militants. Mais ce que je voulais aussi mentionner, c'est que ce qui m'intéresse, c'est de voir comment va évoluer le mouvement En Marche ou comment va évoluer la France Insoumise. Parce que finalement, cette perspective de massification, on a plus d'adhérents que les autres partis politiques. Certes, elle existe. Il suffit de cliquer, il n'y a plus besoin de cotisation, on fait une adhésion extrêmement ouverte. Certes, mais finalement, on se retrouve, y compris dans ce qui se passe en ce moment au sein d'En Marche pour les législatives, on se retrouve dans un rétablissement de la verticalité, finalement. Donc, qu'est-ce que va devenir cette massification ? Je pense que c'est extrêmement important. Et comme on le sait, les travaux sur les partis politiques le montrent depuis très longue date, avec notamment les travaux de Robert Michels, il y a toujours une élite qui finit par se créer au sein des partis politiques, quel que soit le nombre d'adhérents.
Sur la question de l'externalisation du choix des candidats, avec la différence que fait Alexandra Goujon entre niveau national et niveau local, vous me disiez juste avant d'entrer dans le studio que vous, pour concourir comme tête de liste régionale sur les listes Les Républicains, lors des dernières régionales, c'était quoi
2015.
Décembre 2015, c'est ça?
Oui, deuxième tour. Oui.
Vous étiez passé, vous aussi, par des primaires, Dominique Régnier.
Moi, c'est parce qu'il y a eu des primaires régionales inventé hors statut, que je me suis présenté, et qui était ouverte spécifiquement à la société civile, fermée les guillemets. C'est comme ça que moi je me suis dit, tiens, mais je vais tenter le truc. J'étais pas membre de parti, j'avais jamais été membre d'un parti. Je n'aurais jamais pu entrer en candidature à ce niveau-là, la présidence d'une région, même si je n'ai pas gagné. Je n'aurais jamais pu entrer à ce niveau si j'avais suivi la ligne classique des partis. Et d'ailleurs, le parti au niveau national a essayé d'empêcher ma candidature par la fameuse Commission nationale d'investiture que je vois réapparaître. Par exemple, En Marche, par exemple, c'est très intéressant parce que ce sont des militants. Mais quand il y a un problème d'assesseur pour tenir les bureaux de vote, c'est pas là qu'on les trouve. On va chercher toujours les socialistes, les républicains. Et quand ils ont leur candidat éliminé, ben, il faut que les maires aillent réquisitionner des citoyens et puis des fonctionnaires locaux. Ça, c'est un indicateur. Mais quand vous regardez En Marche comment ça fonctionne, c'est déjà en train de devenir un parti classique, si je puis dire. C'est un nouveau parti comme les autres. C'est-à-dire qu'il y a une CNI, une Commission nationale d'investiture, qui, à Paris, entre quelques personnes, de façon assez autoritaire et pas toujours très claire, mais c'est comme ça que ça fonctionne exactement. Peut-être c'est plus ouvert cette fois-ci, il y avait des critères quand même. Hein. Il y a eu plus de justification des décisions. Peut-être c'est l'acte de naissance. Mais on retrouve quand même des éléments. Et les partis, moi c'est l'expérience que j'ai vécue, étaient très très fermés. Peut-être c'est des choses sur lesquelles il faudra revenir, mais étaient très très fermés à l'ouverture, à l'oxygénation, à l'arrivée de personnes différentes, ayant des profils différents, etc., avaient le sentiment qu'on venait s'attaquer à la rente, en fait, hein, et réagissaient de façon très négative. Et le coup qui est fort, je trouve, chez Macron, c'est d'avoir ramassé cette attente d'une innovation dans les organisations politiques de mobilisation pour essayer de l'ouvrir à des citoyens qui, jusque-là, n'avaient pas été engagés. Je fais juste une remarque, j'ai vu passer un tweet l'autre jour qui m'a beaucoup plu par sa force, et bien sûr, sa densité, c'est le propre de l'exercice. Il disait, chez En Marche, les jeunes sont investis. Chez Les Républicains, les jeunes tractent pour les candidats plus vieux investis. Et c'est très vrai, ça. C'est quand même une vérité.
Alexandre Agoujon, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, La République En Marche ou La France Insoumise ne peuvent pas encore être qualifiés de partis politique, si tant est que vous fassiez la différence justement entre ces mouvements, puisqu'on les appelle des mouvements, et les partis politiques traditionnels. Et qu'est-ce qui ferait qu'ils basculeraient dans cette appellation, là?
Alors déjà, de ce que je sais pour la France insoumise, c'est que il y a une déclaration au journal officiel par la commission des comptes de campagne qui établit le fait que la France insoumise est une organisation qui se soumet, comme les partis politiques, en fait, aux exigences liées au financement des partis. Tout simplement parce que, et là je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, le financement des partis politiques aujourd'hui est lié au résultat des élections législatives. Donc les partis politiques ont besoin, si je puis dire, d'avoir un compte de campagne, y compris pour l'élection présidentielle, mais aussi pour les législatives.
Donc la France Insoumise, pour vous, c'est un parti politique?
Disons qu'en fait, à partir du moment où on est une organisation, alors on peut revenir aux fonctions des partis politiques. Les fonctions des partis politiques, il y a une fonction d'intégration sociale, mais la fonction première des partis politiques, c'est la conquête du pouvoir. Donc à partir du moment où on va vers la conquête du pouvoir, on est un parti politique. Là où c'est intéressant, c'est que la France Insoumise, y compris En Marche, bien que ce ne soit pas tout à fait les mêmes fonctionnements, et puis il y en a un qui a gagné quand même l'élection présidentielle, c'est que il y a l'idée, effectivement, de sortir du format partisan traditionnel. Exemple, pas de cotisation pour adhérer. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça, c'est l'idée. On rassemble et on met le moins de contraintes possibles à l'adhésion. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, on peut supposer quand même que s'il y avait des cotisations, il y aurait sans doute moins d'adhérents chez En Marche ou dans la France Insoumise. Que c'est effectivement une contrainte, c'est un engagement de la longue durée, c'est une cotisation annuelle qui doit être renouvelée, etc. Donc, voilà, ce sont des partis politiques, mais qui réfléchissent à la transformation de la forme partisane. Mais on peut dire qu'on a des partis politiques qui ont déjà un peu travaillé là-dessus. Je pense notamment aux partis de gauche. Je pense par exemple à Europe Écologie Les Verts, qui avait tenté une présidence collégiale. On a vu que ça n'avait pas très bien marché. Il y a une volonté, y compris chez les partis traditionnels, de réformer l'organisation politique.
Erwan Lecœur, est-ce qu'on pourrait dire que ces mouvements, appelons-les encore des mouvements que sont La République En Marche et La France Insoumise, mais il y en a d'autres d'ailleurs, il y en a qui se lancent. Benoît Hamon a par exemple, on sait qu'il allait créer un mouvement, mais alors ça sera quand même dans le cadre du Parti Socialiste, parce qu'il y a des mouvements qui sont en dehors des partis traditionnels, il y en a qui sont encore en dedans. Il y a Anne Hidalgo qui vient de lancer dès demain, sous le statut d'association loi 1901. En tout cas, est-ce qu'on peut dire que ces mouvements là ont vocation à se transformer en parti politique, mais qu'ils ont peut-être compris ce que n'ont pas compris les vieux partis, c'est que du point de vue des militants, il y a une demande peut-être de souplesse, de liberté, d'engagement intermittent qui correspond mieux que quand on doit être militant socialiste, communiste ou Les Républicains ou au Front National.
Oui, bien sûr, il y a une adaptation, je dirais, à un air du temps et à une façon de vivre, à des façons de vivre. Les façons de vivre des gens qui ont 25 ans aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux qu'il y avait 25 ans dans les années 70. Le militantisme ne peut plus être le même. Et il y a en effet dans ces mouvements quelque chose de, entre guillemets, rafraîchissant. Et on l'a vécu, ça a été cité, avec Europe Écologie à une époque, avec la Coopol, la coopérative politique ensuite. Tout un tas de gens ont créé des mouvements autour de Pierre Rabhi, autour de dans l'écologie. Il y a plein de mouvements qui... Ma voix a été un mouvement, il y a plein de mouvements qui rapatrient plein de gens qui ne souhaitent pas s'engager de façon trop, je dirais, sur le long terme. C'est une forme d'innovation sociale et politique, à la fois dans le mode de recrutement, mais aussi dans la façon de faire de la transparence. Il ne faut pas le négliger. Il y a une forme de transparence et qui peut parfois choquer, parce que cette transparence, elle va aussi vers une gouvernance quasi directe, où il n'y a plus les grandes instances absolument lourdes, hein, le centralisme démocratique du Parti communiste français, qui, je le rappelle, reste l'emblème absolu du parti politique. Avant le Parti communiste français, il y avait beaucoup de ligues et très peu de partis. Après le Parti communiste français, il y a eu des partis qui se sont, pour une certaine partie d'entre eux, calqués sur son fonctionnement extrêmement lourd, hiérarchique, je dirais presque administratif. Hein. C'est une organisation administrative. Le Front National en est un bon exemple, malgré ses airs de front. Voilà. Et donc, oui, il y a une adaptation à l'ère du temps et à la façon dont les gens vivent, à l'heure de Facebook, de Twitter, d'Internet. Et donc, c'est ça aussi le résultat. Le succès de ces mouvements, il est là également, il est sur Internet.
Et s'agissant d'ailleurs des mouvements, je n'ai pas évoqué celui que vient de créer Florian Philippot hein, au Front National, les Patriotes, où là aussi on voit bien quand même qu'on est dans quelque chose. Alors je ne sais pas d'ailleurs si c'est quelque chose de totalement nouveau, Dominique Régnier, ou si finalement ces mouvements-là, qu'on appelait peut-être autrement, autrefois on parlait de courant, par exemple quand c'était à l'intérieur d'un parti politique, mais est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est un phénomène qui vous semble différent?
Il y a pour partie la même chose et pour partie autre chose, parce qu'il y a eu, il y a depuis toujours, des courants organisés, des clubs aussi, de réflexion, d'associations. Ça a toujours existé, ça maintient, même si ça a l'air de renaître, parce que les noms sont nouveaux, et c'est pas que le nom qui est nouveau, c'est les personnes ou les contenus, mais il y a aussi parfois une espèce de stratégie de financement de la vie politique. Les micro-partis, par exemple, ce sont aussi des associations qui reçoivent de l'argent de la part de donateurs, qu'ils reversent ensuite, parce qu'on a le droit de le faire, en tant qu'organisation politique, à un parti ou à un candidat, et c'est une façon d'avoir plus de ressources. Il y a aussi des éléments de ce type que l'on pourrait évoquer. Moi, je voulais aussi insister sur un point, on sait tous que si les partis sont en crise, les associations ne le sont pas. Et donc le mouvement associatif en France est très vigoureux. Donc ça a dit aussi sur cette forme d'engagement qui est...
En tout cas, si elles sont en crise, c'est pour d'autres raisons. C'est pour des raisons peut-être budgétaires, s'agissant des associations.
Oui, voilà. Vous avez raison. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Mais sinon, la vivacité est considérable. Et les entreprises monocausales, en quelque sorte, où on vient pour une cause, et une cause même parfois très empirique, très immédiate, dont on peut vérifier les résultats, ça nous éclaire aussi sur les difficultés qu'ont les partis politiques à convaincre. On sait aussi que les partis ont une offre philosophique globale qui est plus difficile aujourd'hui parce que bon, il faut un paradigme puissant, mobilisateur, c'est pas simple. Mais je voudrais juste introduire une idée. C'est pas sûr que la transparence y gagne. C'est peut-être même le contraire parfois. C'est-à-dire que si vous enlevez des organisations comme les partis, supposons, qui sont des organisations ayant un statut juridique, faisant l'objet de contrôles de plus en plus stricts. C'est un objet par lequel on peut organiser des élections et quiconque le souhaite peut contrôler la manière dont une élection se déroule, dont elle est financée, qui est à la manœuvre, qui sont les responsables, à qui peut-on imputer des responsabilités, bonnes ou mauvaises. Quand ces partis se fragilisent, on ne sait plus très bien comment se font les jeux d'influence. On ne sait plus très bien d'où viennent les ressources. Enfin, on ne sait plus très bien. C'est moins évident, en tout cas.
Et c'est peut-être parce qu'il y a le pari d'une forme d'autorégulation.
Alors, c'est possible, mais je pense qu'il faudra veiller à ce que la disparition ou l'affaiblissement d'un objet juridique, moi je pense que c'est important, ça, avec un statut, un objet que l'on peut, encore une fois, interpeller, contrôler, vérifier, auquel on peut demander des comptes, ça a de l'importance. Et il me semble aussi, je fais cette petite relation, un mouvement, un parti dont vous ne payez, enfin, auquel vous ne payez pas de cotisation, c'est peut-être aussi une organisation à laquelle vous ne demandez jamais de comptes. Le lien est très ténu. Quand on vous demande de l'argent, même pas beaucoup, ben vous demandez des comptes à l'organisation et il peut y avoir aussi une relation de responsabilité qui peut-être n'existe pas. Il n'est pas exclu qu'un parti qui ne demande pas d'adhésion, de cotisation, soit un parti hyper centralisé qui sera décidé entre quelques personnes et puis le reste, ce sera un peu des faire-valoir.
Alexandra Gaujean, je vous vois approuver ce que dit Dominique Régnier.
Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, ces mouvements, quand même, naissent, j'insiste, hein, au moment de l'élection présidentielle. Et il y a quand même une forte personnalisation de ces mouvements, encore une fois. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ils vont évoluer en dehors de cette personnalisation, qui est une personnalisation aussi, je veux dire, une personnalisation du pouvoir. Donc, comment la gouvernance au sein de ces partis politiques va évoluer. Et puis, peut-être, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Je me dis, on est quand même dans des aspects assez techniques, mais par rapport à ce qui a été dit et la multiplication de ces mouvements, je crois que cette élection présidentielle, avec l'affaiblissement des partis politiques, vient aussi, nous apporte toute une réflexion quand même sur les clivages idéologiques. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est le mouvement de Philippot autour des patriotes, c'est-à-dire toute cette réflexion au sein du FN sur la question de la zone euro, de la sortie de l'Union européenne, et où là, tout le monde, comme s'il y avait un nouveau clivage qui naissait au FN.
Mais justement, Alexandra Gaujean, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une phase de réajustement entre ce qu'était le positionnement idéologique, alors continuons à les appeler les vieux partis politiques, et la réalité des clivages, et que finalement, non, il ne s'agit pas de leur disparition, mais plutôt d'une recomposition des partis politiques, mais qui tiendrait davantage compte de ce qu'est la réalité de ces clivages, et que c'est compliqué finalement de faire cohabiter des familles antagonistes au sein du Parti Socialiste comme au sein des Républicains, et que finalement voilà, on est en train de remettre un petit peu d'ordre là-dedans.
Oui, moi je crois que c'est très intéressant, parce qu'on parlait de la disparition du clivage gauche-droite, n'oublions pas la passation de pouvoir du Premier ministre où chacun a dit moi je suis de gauche, moi je suis de droite, j'ai mes références, moi aussi. Donc voilà, Je ne sais pas si les nouveaux ministres vont arrêter d'utiliser le clivage gauche-droite. Ça peut d'ailleurs le réactiver. Non pas forcément dans l'immédiat, parce qu'on veut se rassembler, etc. Mais encore une fois, attendons de voir les électorales, c'est-à-dire les législatives, et puis la suite. Mais au Parti Socialiste, c'est évident. Je crois qu'il faut faire le lien avec ce qui se passe au niveau de la social-démocratie en Europe, en fait. Hein. C'est-à-dire que le Parti Socialiste français a des difficultés, tout comme le Parti Social-Démocrate allemand, tout comme là, on le voit avec Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne, avec son nouveau programme là pour les législatives de juin, pour lesquelles il est quand même un peu mal parti, mais qui est en fait un programme très, 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 très à gauche.
Erwan Lecoeur et Dominique Régnier, s'agissant des clivages, est-ce que le problème, notamment, n'est pas le suivant ? C'est-à-dire qu'avec les partis actuels très identifiés, je reviens au Parti Socialiste par exemple, les Républicains, c'est peut-être un peu moins vrai sous cette appellation-là, en tout cas aujourd'hui, mais le Parti Communiste, c'est-à-dire que sont des partis qui affichent dans leur nom un ancrage idéologique, alors qui est peut-être un ancrage qui est devenu obsolète, mais que dans les mouvements qui apparaissent, on ne sait pas très bien, c'est-à-dire s'il y a des nouveaux clivages, on est a priori incapable de savoir quels sont ces nouveaux clivages en regardant les noms de ces nouveaux mouvements, Erwan Lecoeur. La République en marche, la France insoumise, ça ne dit pas ce qu'est le fond, le positionnement, en tout cas idéologique de ces mouvements. Erwan Lecoeur, nous l'avons perdu. Alors Dominique Régnier, si vous voulez bien.
Non, c'est une grande question, ça. On a souvent caractérisé les partis de droite comme ça, justement. Hein, des partis qui ne disaient pas qu'ils étaient de droite. Hein. Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie française, etc. C'est une vraie tradition, si je puis dire. Et ça s'explique, mais enfin, c'est pas le sujet, j'imagine. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas confondre, c'est la possible reconfiguration du clivage gauche-droite et la fin des clivages. C'est deux choses différentes. Il se passe quelque chose, c'est évident. Mais c'est nouveau, relativement nouveau. On se souvient tous du référendum de 2005. Et ce référendum, dont on sait le résultat, avait mis du même côté, pour le oui, de la gauche et de la droite, et du côté du non, ensemble, de la gauche et de la droite. Et ça a été un moment qui déjà a annoncé très clairement un travail souterrain sur des oppositions qui sont aujourd'hui extrêmement importantes et très déterminantes. Moi, je lis davantage, en termes de lecture, je veux dire, je lis davantage ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron à partir de cette ordonner la vie politique française entre pro et anti-européens ou européens très critiques, on va le dire comme ça, d'un côté, et de l'autre, les pro-européens, qu'ils soient de droite ou de gauche à chaque fois. Et c'est d'ailleurs un des aspects qui peut nous donner à penser, on peut en faire l'hypothèse, que non seulement les clivages ne vont pas disparaître, mais ils vont être plus profonds que jamais. Il est tout à fait frappant de voir les déclarations de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen sur ce qui est en train de se faire, en disant voilà, c'est la consécration d'un système qui se reconnaît, sans hypocrisie cette fois, identique à lui-même. Et donc, nous sommes la vraie opposition. Ce n'est pas dire qu'il n'y a plus de clivage, c'est dire qu'ils sont plus profonds que jamais et nous sommes moins conciliables que jamais. Peut-être que c'est ça aussi qui se joue. Certainement pas la fin des clivages. Et s'il y a des clivages, il y a nécessairement des partis politiques, en tout cas des organisations politiques, pour les représenter, les porter et les formaliser sur le plan idéologique, par exemple, ouvert, fermé. Ça, c'est un clivage sans doute très puissant en France aujourd'hui.
Vous êtes d'accord avec ça, Erwan Lecoeur ?
Oui, il y a évidemment la fin de certains clivages. Le clivage gauche-droite qui avait permis justement ce qu'on disait dès le départ, c'est-à-dire le passage d'une majorité à une autre avec 50+1. Je reviens très rapidement. Si ce clivage s'effondre, et notamment si, ce qui a été dit, M. Macron est en train de finir de tuer les deux principaux partis politiques en faisant dire à l'un et l'autre de ses ministres « moi je suis de gauche, moi je suis de droite », ou plutôt « je viens de la gauche, je viens de la droite, et pourtant je travaille pour l'intérêt commun, pour l'Europe, pour une nouvelle vision de l'économie et pour une nouvelle alliance entre la société civile et la politique », parce que c'est ça qui est en train de nous être montré, eh bien il y a en effet de nouveaux clivages sur les questions climatiques, sur les questions de dette, sur les questions de qu'est-ce que le travail. Bien sûr, il y a tout un tas de nouveaux clivages qui sociologiquement existent dans notre société et qui n'existaient pas et qui n'étaient pas représentés dans les deux vieux partis politiques mastodontes qui se partageaient le pouvoir ou qui se le passaient de l'un à l'autre en regardant le Front National comme l'ennemi principal. Et donc, on peut postuler qu'il y a aujourd'hui trois pôles dans la vie politique française, comme il y a trois pôles sociologiques. Un pôle, disons, de gauche écologique et radicale que M. Mélenchon essaie d'incarner bon an mal an, de plus en plus maladroitement parfois. Un pôle central gestionnaire que M. Macron incarne parfaitement et dans lequel il a rapatrié tous les gens qui, au PS ou à l'UMP, l'ex-UMP, se reconnaissent dans cette vision-là, on va dire la société ouverte, pour faire rapide, et puis un pôle de droite un peu radical, un peu revancharde, un peu patriotique, dans lequel, évidemment, M. Sarkozy avait essayé de prendre l'allant, et puis c'est Mme Le Pen, aujourd'hui, qui semble en être la principale, représentante. Voilà, on a là trois pôles potentiels, ce sera peut-être quatre à la fin, mais en tout cas, ce que la politique ne retranscrivait plus, c'était les clivages de fond, les clivages, je dirais, idéologiques au beau sens sociologique du terme. Quelles sont les grandes idées que notre société doit régler et que ni l'un ni l'autre des deux partis n'arrivait à résoudre, ni en interne ni en externe. Et on semblait avoir régulièrement des gens qui faisaient à peu près la même politique d'un côté à l'autre. Eh bien là, on a, oui, un pôle central qui est essentiel, qui est majeur, qui est gestionnaire et qui s'assume comme tel. Peut-être que ça, c'est un début de clarification, en effet, d'un nouveau clivage.
Alors à ce moment de la discussion, ça peut être intéressant d'examiner, même si vous l'avez déjà fait par petites touches, Alexandre Goujon, ce qui se passe chez nos voisins, notamment chez nos voisins européens. Enfin, nos voisins, ils sont essentiellement européens, d'ailleurs. Et quand on parle de recomposition politique sur ces dernières années, il y a quelques exemples forcément qui arrivent tout de suite à l'esprit. Il y a le mouvement 5 étoiles en Italie, il y a Syriza en Grèce, et puis il y a l'Espagne et Podemos.
Madrid, janvier 2015. 300 000 personnes venues des quatre coins de l'Espagne envahissent les rues.
Moi, je suis venu ici parce que je crois que c'est important d'être là, tout simplement. Ils appellent tous les gens qui veulent le changement à être présents. Et c'est ce que j'ai décidé de faire.
Depuis plusieurs années, la société espagnole subit les effets de la crise économique. Elle se sent abandonnée par la classe politique.
Avec tous les gens qui sont là, nous disons tout simplement qu'il faut faire autrement.
Les gens ne sont pas là pour protester, mais pour célébrer, avec enthousiasme, la possibilité de changer le système politique.
C'est pour ça que nous sommes ici, parce que nous avons de l'espoir.
Cet espoir, un nouveau parti politique, créé il y a à peine 10 mois, l'a fait naître. Il s'appelle Podemos.
Voilà, extrait d'un reportage diffusé sur Public Sénat consacré à l'émergence de ce parti politique. On sait assez longtemps, la durée est évidemment toute relative, Alexandra Goujon, mais demander pour quelles raisons ce mouvement-là ou ce type de mouvement avait du mal à émerger en France. Finalement, est-ce que on n'est pas en train de constater une forme de mouvement similaire aujourd'hui en France, même s'il y a peut-être pas l'équivalent de ce que représente Podemos aujourd'hui en Espagne, mais en tout cas, là aussi, une forme de recomposition qui est en train de rattraper la France et qu'on aurait déjà constaté dans un certain nombre d'autres pays.
Oui, je pense qu'on peut, on peut comparer Podemos et la France insoumise. La différence, c'est que ce qui, au final, changera pas forcément beaucoup de choses, mais c'est que ça commence par un mouvement social quand même, Podemos, hein. Une contestation sociale forte, une expérimentation de la prise de décision différente. C'est pour ça que les débuts de Podemos, c'est plutôt Nuit debout que la France insoumise, hein. Donc,
même si les liens entre les deux, d'ailleurs,
voilà. Oui,
ils existent.
Ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, Podemos est confronté à la gestion du pouvoir. C'est-à-dire, à partir du moment où ils ont un nombre de députés relativement conséquent, eh bien, comment va continuer à fonctionner le parti à partir du moment où on est à des élus locaux? Comment ceux-ci, enfin, les candidats vont être désignés?
Une forme de normalisation.
On a du mal. Enfin, les discussions qui ont lieu au sein de Podemos entre la collégialité de la prise de décision, la transparence et l'efficacité. Mais toutes les démocraties, si je puis dire, tout comme les partis politiques sont confrontés à cela, la démocratie représentative, elle naît du fait qu'il faut à un moment donné l'efficacité de la prise de décision. Sinon, effectivement, on pourrait délibérer sur un temps extrêmement long du choix du candidat ou par exemple des lois. Donc ce dont on se rend compte, c'est que les différentes expériences de ce type, d'un grand mouvement social, comment on passe à l'exercice du pouvoir, eh bien on se rend compte qu'effectivement il y a une forme d'adoption, d'adaptation du mouvement social à la forme partisane. Et ce qui me... je réfléchissais aux trois pôles qui avaient été...
Qui évoquait Erwan Lecoeur.
Erwan Lecoeur, tout à fait. Sur ce pôle gestionnaire, finalement, je me suis dit, mais est-ce que Syriza n'est pas le pôle gestionnaire aujourd'hui en Grèce, alors même qu'il a une tradition, on va dire, qui était au départ très, très, très contestataire et sur des positions, on va dire, idéologiques bien différentes du mouvement En Marche aujourd'hui.
Voilà, un rapprochement assez inattendu entre Syriza et La République en Marche, même si on se souvient que Yanis Varoufakis, ex-ministre de l'économie pour Syriza, avait apporté son soutien dans l'entre-deux-tours à Emmanuel Macron, tout en disant, bien entendu, qu'il combattait ses idées. Dominique Régnier.
C'est très intéressant parce que, bon, d'abord, Podemos est en crise aujourd'hui quand même, hein, ils ont une question d'organisation interne, Alexandra Goujon le laissait entendre, il y a une question sur l'autoritarisme d'organisation, ce qui est, faut quand même le souligner, parce que ça peut paraître intéressant. Roberto Michels a été cité, la loi des reins de l'oligarchie. Et puis, ils sont en crise parce que la stratégie consistant à ne pas faire d'alliance épuise un peu leurs électeurs qui imaginent peut-être ne jamais gouverner. En tout cas, voilà, il y a une vraie question de développement. Mais tout ça, et c'est très intéressant parce que c'est tout ce qu'on dit sur les partis politiques, je vais dire une évidence, hein, mais c'est aussi la conséquence sans doute d'excès de la part des partis installés depuis longtemps d'une professionnalisation des fonctions électives héréditaire quasiment, hein, ou en tout cas transmise par des appareils, hein, c'est très impressionnant d'observer ça de près. Par exemple, dans des scrutins, on fait souvent l'apologie de la proportionnelle. Mais la proportionnelle, c'est le triomphe des partis. Ils choisissent les élus avant même que les électeurs aient été convoqués, puisque c'est la position qui détermine le résultat. Donc on a cette cartélisation incroyable qui a étouffé la démocratie dans ce cas-là de plus élémentaire, le renouvellement, la discussion, l'échange et la compétition au sens de l'incertitude d'être élu. Mais il y a, ça sont des causes, je dirais, de la crise, et puis tout ce qu'on sait sur la société actuelle, etc., les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, l'horizontalité. Mais il y a aussi des transformations en profondeur historique qui, moi, m'impressionnent énormément. C'est-à-dire que les démocraties sont travaillées par des mouvements dans les sous-bassements qui sont en train de tout faire exploser. Et en particulier, il y a un clivage qui est très puissant, c'est le clivage social. Si vous regardez, chacun l'a fait, mais aujourd'hui, là, au gouvernement, nous avons représenté le Parti Socialiste, les Républicains, le MoDem, le PRG, j'en ai peut-être oublié un, mais en gros c'est ça, c'est-à-dire les CSP+. les catégories moyennes et supérieures. Tout le reste ne se retrouve pas là-dedans. Au premier tour de la présidentielle de 2017, 23 avril, 49,6% des électeurs qui se sont exprimés ont choisi un candidat qui n'est pas Benoît Hamon, Emmanuel Macron ou François Fillon. 49,6, c'est sans précédent. Donc ça, c'est où maintenant ? Évidemment, ce ne sont pas les partis qui le représentent, mais ce sera représenté à un moment donné sous une forme plus ou moins chaotique.
Et ça va rendre d'autant plus intéressantes les prochaines élections législatives du mois de juin. Merci beaucoup, en tout cas à tous les trois, d'avoir participé à cette discussion. Alexandra Goujon, Dominique Régnier et Erwan Lecoeur, les références bibliographiques des uns et des autres, c'est sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Philippine Lebray, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer, Louise Fuseau. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Olivier Arnay. Demain, nous allons parler des opérations militaires extérieures de la France, les OPEX, à la faveur d'une visite du nouveau président de la République auprès des troupes françaises au Mali. Bilan et perspective de ces OPEX, ce sera le sujet de demain dans Le Grain. Dans un instant, Mathilde Serrel et Ping Pong pour une émission très politique ce soir, Mathilde.
Oui, d'ailleurs, vous savez qu'on parle d'OPEX, mais on peut aussi parler de guerre. C'est ce que soulignait Pauline Mocord, notre invitée de lundi. Mais pour l'heure, ce sera une lecture historique de la séquence politique que nous sommes en train de vivre avec Patrick Boucheron, qui nous parle du côté très contemporain du prince de Machiavel, et puis un dictateur moustachu et méchu, Arturo Huy, alias Hitler, dans une pièce de Brecht incarnée par Laurent Stocker.
Eh bien, on vous retrouve après le rappel des titres.